418-971-418-971-1021. Comment ça va votre mardi? Est-ce que vous en profitez? Vas-tu bien job? Le boss, es-tu bien sympathique? Ton boss, Pascal, es-tu bien sympathique?
Oui, très smart. Mais on en a 150 000 ici. Oui.
Mais moi, je pense à Nicolas Leclerc. Là.
Oui!
Chaque fois qu'il me voit, il se demande ce qui se passe.
Chaque fois qu'il...
C'est qui, lui?
Chaque fois qu'il te voit, il se dit je pense que je vais pas y parler parce qu'il y a des problèmes qui vont venir avec ça.
Il part comme un système de reconnaissance faciale pour se souvenir de. Attends, je l'ai-tu bien embauché? Bref, on a des bons patrons. J'espère que vous en avez aussi. Pat Raymond, le spécialiste des chiffres, le gars qui nous parle de taux variables et de taux fixes. Vous allez l'entendre dans les prochaines secondes. Qui c'est? Ben, c'est le gars derrière le podcast Financièrement parlant. C'est aussi un ex-gestionnaire de patrimoine. C'est aussi un ex-militaire à qui j'aime bien jaser d'argent. Salut mon ami!
Hey, comment ça va vous autres?
J'aurais dû ajouter indépendant de fortune.
Ah ouais?
Ouais, indépendant de fortune.
Mais j'ai jamais vu ça comme ça, moi.
Mais ça veut dire quoi quand t'es indépendant de fortune? Parce que, mettons, Warren Buffett est indépendant de fortune, il peut acheter le Québec au complet.
Ben, c'est plus que t'as pas besoin de travailler.
Mais toi, t'es indépendant de fortune, mais t'es cheap à côté.
Ben, j'ai pas besoin de travailler.
T'es un cheap.
Toi, tu mets ça à ça?
Ouais.
Tu mets la barre à si t'as pas besoin de travailler.
Je suis libre financièrement, mais...
Mais avec un mode de vie.
Si je m'achète un bateau puis deux chalets, ben, je suis plus libre. Fait que je suis libre, tu sais, je le dis ouvertement, je suis libre financièrement, mais il faut que je vive modestement.
Mais ouais. Si on vit dans la rue, on est-tu indépendant de fortune? Si,
oui, oui.
Ah, oh, tu sais, non, mais...
Mais c'est relatif.
Avec un mode de vie à combien par année?
Un mode de vie, tu veux dire, personnellement, mon coût de vie... Ben moi, j'ai un coût de vie, je suis pas gêné à le dire, j'ai un coût de vie à peu près de 80 000 par année.
Mais mettons, indépendant de fortune, toi, tu le mets au moment où t'as pas besoin de travailler par année.
Ouais.
Mais le minimum... Pour un indépendant de fortune, selon ta façon de voir les choses, ça serait à combien
de moins qu'il rentre, faut au moins qu'il rentre 50 000 net. Là. Ouais. Quelqu'un qui a un bon placement, une rente viagère, qui est indexé au coût de la vie, puis qui est capable d'aller chercher, je sais pas moi, 50, 60 hein, de nos jours, puis qu'il n'y a pas de paiement. Il faut vraiment... Parce que c'est presque inimaginable pour quelqu'un. On en a parlé un peu dernièrement là, des fonds de retraite de 55 ans, 53 ans, 50... Moi, je t'avais vu beaucoup de l'actualité. Là.
Ouais.
On en parlait dernièrement avec les retraités d'Hydro-Québec. Bon, évidemment, c'était pas la majorité, mais il y avait un petit groupuscule qui avait quand même... C'est un beau privilège d'avoir une retraite à 55 ans. Mais des fois, les gens n'ont pas idée... moi, j'ai pris ma retraite à 52. Ça prend beaucoup en avant, énormément. Puis moi, j'ai sacrifié, puis je ne suis pas gêné de le dire, j'ai sacrifié un gros montant que j'ai transféré dans une rente viagère. Fait que là, tu te dis, est-ce que je m'achète une Lamborghini ou je m'achète un 1953 par mois de rente viagère indexée? Tu sais, je veux dire, c'est toute une décision à prendre. Quand tu sacrifies un montant d'argent dans une compagnie d'assurance qui te transfère ça en rente viagère,
ouais.
Ça veut dire que c'est à vie, c'est un montant. Je vais toujours manger à vie, mais j'accepte quand même de sacrifier... une petite fortune
exact.
Pour avoir un montant par mois équilibré.
Exact. Puis ça dépend où tu
vis. Avec des enfants aussi, c'est de la sécurité.
Des fois, je vais aux toilettes, puis là, je tombe sur TikTok. Et là, je regarde des TikTokers et TikTokers qui se promènent à travers la planète. Moi, je suis un gars qui aime bien voyager là, à travers les yeux des gens, puis j'aime bien voyager moi aussi. Puis, tu sais, il y en a qui me parlent du coût de la vie, là, quand ils voyagent. Puis, tu sais, quand ça te coûte 3-4 piastres par jour pour manger, là, je veux dire, le coût de la vie n'est pas très élevé. Tu sais, ici, tu peux être considéré comme un pauvre, mais là-bas, tu serais
absolument.
Considéré comme un riche.
Mais avec ton salaire d'ici, par exemple, tout est dans le ratio.
Oui, mais admettons qu'à 65 ans, tu vends toutes tes affaires, puis il te reste quoi, un genre de 150-200, là.
Oui.
Bien, ici, tu ne t'offres pas longtemps avec ton 150-200. Mais si tu prends ton 150-200, puis tu t'en vas dans un pays où le coût de la vie n'est pas très élevé, tu peux vivre comme un roi jusqu'à la fin de tes jours si tu es en santé.
Mais c'est vrai ce que tu dis. Ben ouais, si tu es en santé. Souvent, c'est ça qui est le stress en vieillissant. C'est, je m'en vais-tu rester en Asie? Puis qu'est-ce qui va se passer s'il arrive de quoi? Mais en même temps, tu as 100 000 de côté. Ici, tu es cassé pour ta retraite. Mm. Mais tu t'en vas quelque part en Asie puis tu peux faire pas mal d'années.
Ah oui,
tout à fait. Il y en a plusieurs qui le font d'ailleurs. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Tout est relatif. T'sais, moi, je préfère avoir un montant qui entre par mois, plus on a toujours, comme on dit, des dividendes. Tu sais, tu investis toi aussi. Il y a du dividende, il y a du revenu d'immeubles locatifs. Là, c'est un peu diversifié. Puis tu te dis, ben, c'est quoi le pire scénario? Ben, le pire scénario, ben, il peut arriver des imprévus à la retraite, mais au moins, tu te dis, tu as toujours assez d'argent pour aller faire l'épicerie, payer la base. Puis j'ai deux enfants qui sont relativement jeunes encore à l'école privée. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent net qui part pour payer de l'école privée, parce que c'est pas déductible, ouais, l'école privée.
Non, hein, exact. Mais juste fait à rendre, faut, ta rente viagère, tu me dis que c'est 1900$ par mois.
Non, là, c'est un chiffre que j'ai envoyé comme ça, okay, mais on n'est pas loin de ça.
Mais mettons que c'est 2000 par mois, là, ta rente viagère que tu reçois jusqu'à la fin de tes jours, là. OK?
Ouais, indexé.
Bon, tu veux, t'abandonnes tes enfants, t'abandonnes ta femme, puis tu t'en vas en Asie.
Gros projet.
Tu peux vivre comme un roi là-bas, là, à 2000$
ben, oui, ben,
par,
c'est ça, exact,
par mois, là.
Exact, plus des revenus locatifs. Ben, tu sais, les revenus locatifs...
C'est juste que tu tombes sur des madames qui sont des fois des messieurs, mais c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, les revenus locatifs, ils sont soit en revenus, en cash flow positif mensuel, ouais, ou sinon, ben, ces immeubles-là peuvent être vendus de façon ponctuelle, là, t'sais, d'y aller avec une stratégie fiscale. Tu vends les immeubles, puis là, ça devient aussi du capital que tu peux utiliser, que tu peux décliner aussi. C'est sûr que quand tu prends une rente viagère, ben, tu ne mets pas nécessairement... En tout cas, ça dépend, mais tu ne mets pas toute ta liquidité... Tu sais, tu as 1,3 million de côté, tu transformes ça en rente viagère de 3 200$ par mois à vie. Peut-être pas, il y a un équilibre à faire. Mais c'est quand même un produit intéressant pour des gens qui ne sont pas matérialistes, des gens qui sont plutôt simplicité volontaire, frugal. Je me considère entre les deux, mais tu sais, j'écoutais des reportages sur M. Serge Mongeau, le père de la simplicité, ouais, volontaire, qui est décédé, ben, ouais, par... il a mis fin à ses jours, là, ouais, avec l'aide médicale à mourir vendredi passé, sauf erreur. Mais bref, paix son âme, mais c'est un monsieur qui a enseigné. Puis c'est quand même intéressant, sa philosophie. Là, je trouve ça très, très beau. Mais en même temps, la simplicité volontaire dans le monde qu'on vit, c'est difficile, c'est quasiment... Et ça devient une drogue, la consommation. Fait qu'il faut que tu aies quand même soit des liquidités à chaque mois, mm, en plus du capital, et des investissements qui peuvent être vendus, mm, éventuellement. Et là, ça se décline sur le nombre d'années. Il te reste-tu 30 ans à vivre, 40 ans à vivre, 50 ans à vivre? Ceux qui prennent leur retraite à 40 ans, là, le mouvement FIRE, c'est pas évident. Là,
parce que c'est stressant avec les imprévus.
50 ans à vivre.
Les
là,
imprévus, stress. Je veux dire, hier, là, moi, j'ai eu un accident, puis il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans. Quand même que j'aurais voulu le prévoir à un certain degré, tu sais jamais, au final, qu'est-ce que ça va être comme lourdeur financière, ces imprévus-là, peu importe lesquels. Là.
Exact. Quelqu'un qui t'a rentré dedans hier? Exactement. Quel genre de soirée que tu as eu?
Mais
non, mais elle parle d'imprévus, peu importe que
tu... Tu parles d'un accident de voiture!
Peu importe que tu te fasses
si
rentrer dedans ou pas.
Si c'était un accident, se faire rentrer dedans...
Se faire rentrer dedans, ça peut coûter cher, c'est bien sûr.
J'ai-tu le droit d'utiliser le terme imbécile, moi, pour me défendre des fois?
Non,
ou...
non,
ben,
non,
mais, okay. Ben moi, j'allais t'autoriser, mais en tout cas...
OK, hey, on parle du taux fixe ou taux variable, OK? Il y a plusieurs personnes qui vont devoir, dans les prochaines semaines, les prochains
oui,
mois...
Oui, beaucoup.
Renégocier leur taux avec leur caisse ou leur banque, OK? Et moi, tous les hommes riches que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont toujours dit, Yann, c'est taux variable constamment. J'ai un de mes chums qui est multimillionnaire qui m'a dit, Yann, moi, ma technique à moi, c'est variable, sauf que je prends le taux fixe puis je place le reste.
C'est ce qu'il faut faire.
Donc, c'est je signe variable, mais le montant que je donne, c'est comme si c'était un taux fixe.
Très
ce
bien.
Montant-là est placé. Fait que s'il y a de la fluctuation par le haut, ben je vais être correct. Comme si je l'avais toujours mis au taux fixe, exemple. Je trouve que c'est une belle stratégie. C'est-tu vrai, ça, que les gens riches utilisent souvent le taux variable?
Oui, je pense que oui. Mais tous les investisseurs immobiliers sont en variable parce qu'ils veulent éviter, tu sais jamais des fois quand est-ce que tu vas revendre, tu vas flipper ou tu vas renégocier ou quoi que ce soit. Tu veux te garder cette flexibilité-là parce qu'évidemment, en taux fixe, tu sais, 5 ans fixe, on va te dire une affaire, Pascal parlait d'imprévus. Il arrive des séparations, il arrive toutes sortes de situations. À deuxième, troisième année, il n'y a pas grand monde qui se rend jusqu'aux 5 ans fixes. Dans les statistiques, là, les petits couples, là, c'est 1 sur 2 qui finissent leurs 5 ans. Ils finissent surtout par payer des pénalités entre le fameux taux affiché, le taux qu'ils ont payé. Et là, la différence qui se retrouve en pénalité chez nos prêteurs plutôt traditionnels, tu as des banques virtuelles qui ont peut-être moins ce problème-là parce qu'ils n'ont pas le fameux taux affiché versus le taux payé. Là. C'est la même chose. Mais ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Vous allez voir un courtier hypothécaire qui est bien plus spécialisé que moi. Moi, j'en parle en général. Puis je suis peut-être quelqu'un aussi d'expérience parce que j'ai eu quand même plusieurs maisons dans ma vie, là, plus d'une dizaine. Personnellement, je parle. Fait que c'est moi, j'ai toujours été en variable ou presque. Il y a peut-être une exception ou deux où j'ai été en fixe à un moment donné. Mais puis dans mes immobiliers commerciaux ou locatifs plutôt, ben je suis en variable aussi parce que j'aime avoir cette flexibilité-là. Puis d'aller avec une marge de crédit hypothécaire, puis d'y aller avec un 20%, tu sais, puis les petits couples qui veulent acheter une maison, là, prochainement aussi, parce qu'il y en a qui renouvellent, puis il y en a qui veulent acheter une maison, puis moi, j'ai des questions sur mon groupe financier, là, sur Facebook, questions financières, du financièrement parlant podcast, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, fixe ou variable? Bien là, ça dépend tellement d'affaires. Ça dépend de ton profil d'investisseur. Tu sais, je veux dire, t'es quel genre d'investisseur, toi? T'es-tu quelqu'un qui a du lousse s'il arrivait quelque chose? Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma maison personnelle, la maison actuelle que j'ai, bien, c'est un jumelé qui a été payé en bas de 200 000 à l'époque, puis qui aujourd'hui vaut peut-être 300 quelques. Tu comprendras que je me suis pas étouffé avec ma maison personnelle. Moi,
non,
là,
c'est
là.
Ça.
Puis j'ai mis 40 % de cash à l'époque.
40 % de cash?
Oui. Fait que là, tu sais, le taux d'intérêt...
C'était pas le même prix non plus.
Le taux d'intérêt, il y a un impact aussi, là. Prends-tu... je l'ai à 4 %. Moi, j'étais à 4,5. Moi, j'étais à 3,80. Oui. Mais tu sais, tu regardes le taux d'intérêt puis ils mettent ça sur 30 ans. T'es bien mieux payé sur 15 ans si t'es capable. Tu sais, quand tu payes sur 15 ans, tu vas payer deux fois moins d'intérêt que sur 30 ans.
OK. Parle-moi de la notion du pourcentage. Quand tu signes, exemple, à 4 %, là, je sais pas, est-ce qu'une hausse de taux de 1 %, est-ce que ça change drastiquement les coûts? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de calculer l'hypothèque à 4 % ou 3,5. Quand tu leur parles de ça, là, ouais. Un peu, là, si ma maison vaut, je sais pas moi, 100 000, je signe à 4 %, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ça va être 4 000 $ d'intérêt.
Oui.
T'sais, explique-nous comment ça fonctionne.
Ben, j'ai sorti un peu de chiffres, puis je voulais pas t'es envoyer parce que je vais te faire deviner. Non, c'est pas vrai.
Mais c'est parce que tout le monde est mêlé.
Ben oui, c'est ça, c'est mêlant. Mais tu sais, si on regarde, mettons, la différence de, je sais pas moi, entre 4 et 5 %, ben ça représente près de 10 000 $ de différence sur 5 ans. C'est près de 200 $ par mois.
1 %
sur une maison, sur une hypothèque, pas une maison, mais une hypothèque de 300 000. Mettons que la maison était 300 quelques, là, puis là, t'as une hypothèque 300, là. Fait que c'est pas. Je suis allé vraiment dans un range, là. Je te dirais que le prix moyen aujourd'hui, c'est plus 350-400 ici à Québec. Là.
Fait qu'en 5 ans, tu peux sauver 10 000 $ si tu es 1 % plus bas.
1 % plus bas.
Que le taux fixe avec ton taux variable. Okay.
Ben, moi, je compare, c'est parce qu'il faut juste l'amener de la bonne façon, là. C'est la différence entre le taux fixe, exemple 5 %, le taux fixe 4 %. En partant, tu peux avoir taux fixe 4, taux fixe 5, là. Puis ça dépend où ce que t'es. C'est pour ça que c'est quand même assez préoccupant de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les taux. Mais là, il y a une affaire qu'il faut mettre au point en partant, là. Yann, j'aurais peut-être dû tout de suite mettre ça, là. C'est que le taux fixe est influencé par les marchés financiers obligataires, les obligations 5 ans du Canada. Et le taux variable, il est influencé par le taux préférentiel qui, lui, est influencé par le taux directeur. J'espère que je n'ai pas mêlé personne. Or, le taux directeur, tu te règles du pouce, tu ajoutes 2 % à peu près, tu vas avoir ton taux préférentiel chez tes institutions financières. Et ton taux préférentiel, tu enlèves 1,5, pas 1, mais 0,5, et tu vas avoir ton taux variable. Alors que le taux fixe, lui, est influencé par les marchés financiers, les obligations. Bien sûr que la situation économique macro, inflation, PIB, récession, etc., peut influencer, bien sûr, un taux ou l'autre. Mais ce sont vraiment deux cases complètement différentes. Il faut savoir un peu la mécanique, comment ça fonctionne. Il y a trop de gens encore qui, même je me fais écrire, le taux directeur a baissé, puis mon hypothèque n'a pas... T'es en fixe. Ça le dit.
C'est sûr que ça baissera
c'est
pas.
C'est fixe.
Ça va être au renouvellement que tu vas le savoir.
Au renouvellement, mais selon les obligations du Canada à ce moment-là.
Prenons le cas de Pascal. Pascal veut s'acheter, je ne sais pas moi, un condo ou une maison. Puis là, on lui pose la question, est-ce que tu veux taux fixe ou taux variable? Toi, tu lui conseillerais taux variable, mais tu devrais lui poser les questions. Est-ce que tu es capable d'absorber comme une augmentation de 200$?
C'est exactement ça. Mais en fait, si elle me le dit dans le cadre de porte, là, puis hey, prendrais-tu fixe ou variable, là? Moi, j'essaierais de savoir son profil d'investisseur. On part du profil d'investisseur. La première chronique que j'ai faite ici, là, peut-être un an, même pas, là, on avait parlé du profil d'investisseur pour investir à la bourse, pour investir sur les marchés ou peu importe, dans différents placements. C'est la même chose pour l'hypothèque. C'est quoi ton profil d'investisseur? Puis si quelqu'un a un profil prudent, conservateur, ben là, oui, il est mieux d'être dans le fixe puis de savoir exactement à quoi s'en tenir. Mais quelqu'un qui dit, non, non, moi, je connais les aléas de la bourse, je suis capable de supporter. Ce que j'investis, je peux le perdre pendant un bout. Je sais que ça va remonter. Puis j'ai du lousse, il n'y a pas de trouble. Là, il est bien mieux d'aller dans le fixe.
OK. Tu
sais, ça dépend de ce que tu es capable de prendre. De toute façon, d'aller dans le variable, excuse-moi. Fait que le fixe, pour le prudent et le variable pour quelqu'un qui a plus de lousse. Puis de toute façon, ton variable, si tu as plus de lousse et tu es capable de te permettre un peu de différents soubresauts, bien ton variable, tu peux toujours le fixer à un moment donné.
En mettant toujours le même montant puis en économisant la différence.
Bien, là, ce que Yann, exactement, ce que Yann parlait comme situation dès le départ, là, c'est que tu peux être en variable, puis tu décides de donner toujours un petit peu plus. Rappelez-vous d'une chose, là, c'est le temps qui fait la différence. T'es bien mieux de payer sur 15 ans. Fait que le beau-frère qui, lui, il a un taux, il paye quasiment 6 %. Il avait signé, là, de... Ouais, mais lui, il paye sa maison en 15 ans. Il va payer bien moins d'intérêt que toi à 4 % qu'il a mis ça sur 30 ans. 15 ans, c'est deux fois moins d'intérêt que sur 30 ans. Le temps, autant le temps en investissement, autant le temps au niveau des placements. Puis il y a des gens qui pensent encore que, tu sais, ta carte de crédit, si tu traînes une carte de crédit, je ne sais pas moi, à 20 % puis là, des fois, tu dis, qu'est-ce que je paye en premier? Bien, ça se peut des fois que, ou sur un prêt personnel à 10 %, meilleur exemple, sur un prêt personnel à 10 %, ça se peut que finalement ta maison, c'est elle qui te coûte plus cher en intérêt. Mm-hmm. Non, c'est à 5 %, c'est pas si pire. Oui, mais t'es sur 30 ans. Tu ne payes que des intérêts à l'année.
Exact.
Sur tes premières années. Tandis que ton prêt à 10 %, si tu le règles en 3 ans, il ne faut pas juste comparer le pourcentage d'intérêt relié au prêt, mais c'est au niveau de la durée.
Mais je la sais, la patente. C'est que le premier réflexe des gens avant de rencontrer des spécialistes, c'est de voir le paiement que ça va te faire par semaine ou par mois. Moi, j'ai toujours pris par semaine, là. Mais eux autres, ils se disent, je veux le plus petit paiement possible par semaine, ce qui va faire en sorte que je vais être capable de m'acheter d'autres affaires puis de bien vivre.
Et c'est là-dessus, comme... c'est tout.
Les gens ne pensent pas à long terme. Il y en a qui ont les capacités financières de penser à long terme, puis il y en a d'autres qui se disent, regarde, je veux une belle maison où je veux élever mes enfants avec ma conjointe ou mon conjoint, puis je veux les plus petits paiements. Que ça prenne 25 ans ou 30 ans, je m'en fous, je veux être capable de subvenir aux besoins. Mais la question qu'il faut se poser quand tu signes pour ton variable ou ton fixe, c'est, dans le cas où tu es variable, puis là, tu entends que la Banque du Canada là, prend une décision, là, puis pouf, augmentation de 1 %. Un point, mettons.
Ouais.
Je vais être capable de bien dormir les prochains jours? Là, c'est ça. Mettons, ça peut représenter 200 $, 300 $.
C'est ça. Sur une maison moyenne, ça peut être un 200-300 $ dès le mois suivant. Puis là, les gens n'ont pas juste ça. Ils ont aussi un prêt sur une marge de crédit hypothécaire. Des fois, l'automobile. Des fois, c'est pour aller emprunter pour l'automobile, puis tout ça. Puis un petit conseil, ça slide, là. Ou sur le site, ça dépend de quelle région on vient. il faut pas non plus aller chercher un prêt automobile avant de faire une démarche hypothécaire. Vous êtes en renouvellement ou vous êtes sur le point d'acheter une maison. Bien, allez pas vous embarquer sur un prêt automobile tout de suite. T'sais, gardez votre portrait financier, votre code de crédit, puis gardez tout ça le plus clean, le plus simple possible avant de faire une acquisition ou un renouvellement hypothécaire. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est les séparations de couple. Puis l'un des deux veut reprendre la maison. Là, sachez que si quelqu'un, par exemple, se sépare, mais on peut maintenant rapper pour l'autre du couple, même s'il y a déjà, c'est-à-dire, il peut avoir déjà rappé. L'important, c'est que le premier rap a été payé, mais ce n'est pas le critère de ne pas avoir été propriétaire pendant 4/31 décembre. Un des deux du couple peut se servir de son REER pour racheter la part. Et ça peut être refinancé à 95 %. Ça, c'est récent.
Même si la personne a déjà rappé là, auparavant.
Bien, déjà rappé auparavant, mais il faut que son rap soit payé, première condition. Mais il n'y a pas la condition de ne pas avoir été propriétaire dans ce contexte-ci. Okay. Donc, des fois, on dit, bien, la maman reprend la maison, prend ses REER, puis ça peut être refinancé à 95 %. Informez-vous auprès d'un courtier hypothécaire, c'est très important. Puis ça peut aussi aider, justement, à celui ou celle qui part et qui va devoir payer une partie à l'autre, ce qu'on voit souvent dans les séparations. Donc, ça va être financé là, d'une manière. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités parce que c'est des choses qui arrivent énormément. Mais pour le fixe ou le variable, ça dépend de son état, ça dépend de son profil d'investisseur. T'es-tu quelqu'un qui dort ou qui dort pas quand c'est la situation, le stress? Si quelqu'un suit ça constamment, puis qui connaît un peu l'économie, puis qui est un peu à l'affût des différentes nouvelles, puis des choses, puis on pense pas que le taux... cette année, on ne pense pas que le taux directeur va monter, voire qu'il pourrait baisser une fois ou deux. Fait que là, on présume que le taux variable cette année pourrait arriver en bas du taux fixe, parce que là, il est un peu au-dessus, mais il pourrait arriver en bas. Parfait. Fait que si je prends un variable, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être plus bas que celui qui est en fixe, peut-être. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'a aucune idée. Puis peut-être que tu vas te dire, j'aurais peut-être dû fixer. Mais en étant variable, tu peux aussi éventuellement passer du variable à fixe.
Selon, même si tu as déjà signé quelque chose, tu n'as pas à y aller avec la chronologie du temps de pourquoi tu as signé, mettons, un 3 ans ou un 5 ans taux fixe. Faut... Tu vas pouvoir faire évoluer la chose. Puis à un moment donné, si tu pognes un taux que tu aimes, rester déçu.
Bien là, exactement, parce que des fois, ça vaut la peine. Mais là, tu amènes un point intéressant, Pascal. Quand on signe une hypothèque, là, c'est pas juste variable. Il y a comme 100 produits hypothécaires différents sur le marché. Alors, est-ce que c'est un prêt qui est ouvert? Est-ce que ce prêt-là donne la possibilité de mettre un petit peu plus à chaque année? Est-ce que ce prêt-là permettrait de prendre un fixe, c'est-à-dire de prendre un variable et d'avoir un prix fixe? Là, tu peux avoir un variable qui est fixe à ce moment-là. Et ce qui varie d'un mois à l'autre avec le taux directeur, c'est la portion capital et la portion intérêt. Mais tu ne le vois pas réellement dans ton compte parce que c'est toujours le même montant. Bon, ça, c'est une autre possibilité. Fait que là, c'est différents produits. En plus d'être, juste pour être plus mêlant, en plus d'être variable ou fixe, bien, il y a différents produits qui se déclinent. Et d'une institution à l'autre, il y a des variantes aussi.
Oui, puis des fois, il faut que tu négocies aussi avec ton institution. Moi, dans mon cas, quand j'ai vendu ma maison en Beauce, on nous avait parlé de refaire une hypothèque puis de re-signer, parce que c'est la mère de mes enfants qui achetait la maison.
Oui.
Fait que de re-signer une autre hypothèque avec un taux plus élevé. Je dis non, c'est le même montant. Là. Vous pouvez pas re-signer. Là. On va garder le nombre d'années. Je pense qu'on avait eu un méchant deal sur 7 ans. Là. C'était une promotion de Desjardins à l'époque. Puis eux autres, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils étaient mal informés ou si c'était ça la politique, mais moi, il a fallu que je m'ostine un peu en disant non, il y a une propriétaire qui reste là, qui est responsable de l'hypothèque. Moi, je veux juste me libérer de mon hypothèque. Vous allez avoir le même argent qui va rentrer. Là.
Ouais.
Puis là, au début, c'était non, il va falloir refaire. Puis là, finalement, on a réussi à conserver le taux. Puis j'ai entendu une histoire d'horreur où un couple avait acheté une maison à... Je pense que c'est autour de 800 000 $ Puis la femme s'est séparée. Elle voulait acheter une autre maison qui était en dessous de 400 000 $
mm-hmm.
Et elle ne pouvait pas bénéficier du même taux d'intérêt si elle vendait sa maison avec son conjoint à 800 000 $ puis elle se rachetait une maison moins chère. Estinez-vous, là. Battez-vous ouais. avec les institutions financières. Parce que c'est vous, les clients, là. Vous êtes exact. Leur client, puis si vous les menacez de partir, bien souvent, c'est là où ils vont commencer à dire « Finalement, on a fouillé dans la filière et vous êtes tellement important à nos yeux que oui, peut-être qu'on pourrait peut-être... »
On a parlé à la directrice, puis finalement...
Ouais, c'est ça.
Mais soit qu'on reste à la même institution, puis là, oui, il y a des ententes possibles, ça, c'est important. Là. Des fois, il y en a qui vont sauver justement des pénalités, comme on dit. Ils vont sauver les pénalités parce qu'ils vont rester avec le même prêteur. C'est certain que le prêteur n'est pas là pour perdre. Hein? Le prêteur, c'est une banque, c'est un commerce, c'est une business. On a des actions de banque à la bourse, puis on veut que les banques aillent bien. Moi, je suis content que les banques font de l'argent, puis j'en fais aussi. Fait que, non, mais c'est puis la coopérative des caisses Desjardins, bien, je suis membre aussi. Donc, je suis content que les caisses fassent de l'argent parce que je suis membre de la coop. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut le voir comme ça aussi. Mais bien certainement qu'ils sont là aussi. Bien, ils sont là pour faire du commerce, puis ils sont là pour vendre des produits. Puis souvent, quand tu es client avec énormément, c'est-à-dire une ligne de crédit, une carte de crédit, un exact. Compte, un REER, un placement, bien là, c'est intéressant pour négocier aussi.
Mais battez-vous. Si ça ne marche pas, dites que vous allez aller ailleurs. Puis souvent, ils vont trouver un programme qui existe depuis 1933 qu'on
possible.
Avait oublié, qui était poussiéreux, qu'on vient de dépoussiérer, spécialement pour vous aujourd'hui, madame.
1933, vraiment.
Exact. Pat Raymond, quand on veut entendre parler d'argent, on va directement sur ton podcast Financièrement parlant. Puis on se reparle la semaine prochaine, mon cher.
Avec plaisir.
Voilà.
Merci.
13h28, on fait une courte pause, on vient.
Marceau le midi.